Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Que se passe-t-il en ce mois de février 2023 dans le monde du cloud ou du DevOps, une faille VMware et un ransomware, la sortie de Xen Orchestra 5.79, OVH Cloud condamné, et les annonces sur le futur d'OVH Cloud justement. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Et avec moi pour parler Actu, j'ai Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
J'ai aussi Erwan. Bonsoir Erwan.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et Nicolas, bonsoir Nicolas.
Salut tout le monde.
Alors je le rappelle, si tu ne le sais pas, nous avons tous en plus un épisode de podcast dédié avec une interview chacun. Donc si tu veux en savoir plus sur nous quatre, tu peux aller dans les liens en description et aller cliquer sur la présentation et aller écouter le podcast. Et on va commencer tout de suite par le courrier des auditrices et auditeurs. Et j'aimerais commencer par vous lire un message de Joseph. Joseph, il nous a laissé un message sur le formulaire des questions. Et il nous demande, question très importante, je trouve, pourquoi il n'y a pas de femmes qui interviennent dans l'émission? Eh bien, écoute, Joseph, pour l'instant, il n'y a aucune compagnonne qui a passé le pas, qui nous a contacté pour être podcastrice. Pourtant, j'ai fait plusieurs appels dans le podcast. Et justement, ton message va me permettre de faire un nouvel appel aux podcasteuses. Si tu es administratrice cloud, administratrice Linux, DevOps, etc. Si tu es même développeuse DevOps et que tu es intéressée par venir partager justement ton expertise et ton expérience sur le podcast, eh ben c'est simple, tu peux me contacter sur le forum des compagnons du DevOps, m'envoyer un message privé et puis je t'intégrerai dans la liste des podcasteurs et podcasteuses du coup. Si toi aussi, justement, tu veux nous laisser un message, tu peux le faire alors soit sur Podcast Addict, soit sur Apple Podcast, soit sur un commentaire YouTube, ou alors, comme l'a fait Joseph, dans le formulaire question.compagnon-devops.fr qui est en lien de toutes les descriptions. Je vais aussi vous parler d'un petit truc, puisque je vais sortir de ma grotte et je serai dans l'espace communautaire de Kubernetes Communities Days France. Je vais participer en plus à une table ronde sur l'état des lieux de l'open source. Alors je dis sortir de ma grotte parce que je n'ai fait aucune convention ni conférence depuis 2019. Donc ça commence à faire un petit moment. Alors le KCD France, j'en avais déjà parlé, c'est le mardi 7 mars 2023 au centre Pompidou à Paris. Les liens de la billetterie et du site sont en description. Mais Mathieu m'a annoncé qu'il n'y avait déjà plus de billets. Donc tu peux peut-être t'inscrire sur la liste d'attente, sait-on jamais, si tu n'as pas ton billet. Si tu as ton billet, tu pourras me trouver là-bas. Mathieu m'a dit qu'il y sera aussi. Tu pourras me trouver avec ce suite si tu es sur YouTube et que tu regardes sur YouTube. Alors on va parler tout de suite d'une faille. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé et c'est Erwan qui est l'habitué des failles qui va nous en parler.
C'est ça, à chaque fois que je fais des news, c'est pour parler de choses qui ne vont pas. Donc on va rester sur cette dynamique. Donc vendredi 3 février, moi j'ai personnellement vu l'information par un tweet de Arnaud de Birmingham, qui est le fondateur et président de Scaleway, qui a tweeté un truc un petit peu vindicatif, expliquant que tous les administrateurs de ESXi en version 6, 6. Quelque chose devaient soit mettre à jour leur serveur au plus vite, soit les couper les isoler au plus vite. Et ce message a été très vite suivi de messages d'autres hébergeurs type Ikula ou OVH qui ont fait globalement le même type de communication. Et en fait, dans la foulée, on a vu un nombre de tweets d'utilisateurs expliquant que leur serveur semblait être locké, qu'on leur demandait une rançon de 2 bitcoins, pardon. Il y a eu un nombre de tweets comme ça qui ont popé d'un coup. Donc vraiment, il y a eu une espèce d'attaque assez massive. Et on ne parle pas de choses... Enfin, quand je dis massive, c'est qu'il y a même... Vous avez probablement dû voir passer un gars qui est visiblement un administrateur sous ce type de plateforme qui explique qu'il a 2000 machines virtuelles qui s'en donnent sur son infra. Enfin, c'est un truc un peu sérieux. Et en fait, un petit peu plus dans la journée, on voit qu'il y a... Au début, je pensais bêtement avec ces messages que c'était très français, mais en fait, non, l'attaque a touché pas mal l'Italie aussi, la Finlande, les États-Unis, ou encore le Canada. Donc, bref, c'est vraiment une attaque mondiale, donc avec ransomware. Alors juste, on va faire un petit rappel au cas où. Qu'est-ce qu'un ransomware ? Bah, c'est en gros un attaquant qui profite... d'une faille ou d'un accès pour chiffrer les données d'un serveur. Et donc, en gros, quand vous, après, vous voulez avoir accès, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas la clé pour déchiffrer les données. Et donc, vous avez généralement un petit message qui accompagne l'archive chiffrée qui vous dit « vire-moi tant de sous et moi, je te filerai la clé et la procédure pour déchiffrer ». Donc ça, c'est en gros le ransomware et c'est donc le type de, c'est pas l'attaque, mais c'est la conséquence de l'attaque que les exploitants ont fait. Et qu'est-ce que c'est les ESXi ? Eh ben, en fait, c'est un hyperviseur qui est un hyperviseur d'Hibermetal qui est fait par VMware. Et globalement, pour ceux qui sont pas hyper à l'aise avec toutes ces notions, bah, c'est juste un moyen de pouvoir spawn des machines virtuelles et des machines virtuelles. Ouais. Et faut se dire que c'est quand même relativement populaire comme plateforme et que en gros tous les gros hébergeurs bare metal, donc on a dit OVH, Ikula ou Scaleway en France, j'entends, souvent ils fournissent des tutos pour exploiter ce type de plateforme avec leurs offres. Donc c'est quand même assez populaire. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben en fait aujourd'hui, il y a encore un peu de zone de flou, mais il y a quand même eu quelques communications qui nous permettent de comprendre un peu le truc, notamment celle de CertFR. Donc pour ceux qui ne le savent pas, CertFR c'est l'espèce de point de contact international privilégié pour tout incident de type cyber qui touche des acteurs français. Et là, on est vu l'ampleur et le type de dégâts, on est clairement dedans. Et eux expliquent que donc effectivement qu'il y a une faille sur les plateformes ESXi en version 6 quelque chose, que la faille qui est exploitée c'est la CVE 2021-21974. Vous verrez si vous tapez ça sur Twitter là en ce moment, c'est l'enfer. Et donc voilà, ils expliquent que la faille vient de là, mais quand je dis qu'il y a une source de flou, c'est que il y a beaucoup de convergences qui pensent que ça vient de là, mais il y a d'autres failles qui sont quand même évoquées. Et cette faille, c'est quoi ? Bah, c'est en gros une attaque par buffer overflow, donc un dépassement de mémoire qui permet d'exécuter du code arbitraire. Et l'exploitation de ce buffer overflow se fait via un service qui tourne donc sur les ESXi version 6 quelque chose qui s'appelle OpenSLP, donc qui est un service qui écoute sur un port, etc. Et en fait, quand ce dernier est donc exposé pas comme il faut, les attaquants peuvent tenter cet exploit. Et le code arbitraire qu'ils exécutent, c'est tout simplement le chiffrement des données de la machine. Il faut savoir que cette faille, elle était, c'est indiqué par le nom de la faille, donc où il y a 2021, donc cette faille a été révélé il y a un bout de temps, en février 2021. VMware a communiqué dessus. Il y a eu plusieurs donc, communications. Il y a eu des patchs qui ont circulé. Il y a eu, d'ailleurs, si vous vous amusez à regarder sur YouTube, il y a plein de gars qui expliquent comment exploiter cette faille avec des tutos clés en main. C'est donc... voilà, si vous voulez essayer. Mais donc, du coup, il y avait le patch et tout, mais en vrai, malgré tout ça, impératif de prod ou quoi que ce soit, il y a des gens qui n'ont pas pu mettre à jour ou quoi. Et donc, qui, avec ce fameux service exposé vers l'extérieur, on va dire, ou en tout cas pas de façon conforme, ont pu se faire avoir. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait partie des gens qui ont été impactés? Malheureusement, si on a impacté, enfin si on n'est pas encore impacté, mais qu'on est concerné par la version de ESXi, on s'isole, on shutdown et on analyse tout ce qu'on peut sur la machine pour voir si ça n'a pas été exploité d'une façon ou d'une autre malgré tout. Si vous êtes impacté, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Enfin, si, il y a d'ailleurs un gars, un développeur, NS Sunmes, qui a publié un tuto pour déchiffrer, qui propose une méthode pour arriver à s'en sortir. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. J'ai vu plein de gens dire que ça marchait pour eux. Mais bon, à voir. Il y a un lien qui est disponible que vous pouvez retrouver assez facilement. Mais bon, comme c'est pas une méthode officielle, faites quand même attention. Sinon, si vous êtes impacté et que vous êtes dans ce cas-là, le mieux reste malgré tout de réinstaller from scratch et de restaurer des backups si vous en avez. Et d'ailleurs, même si vous arrivez à récupérer vos données par je ne sais quel moyen, le fait de s'isoler, d'analyser à froid tout ce qu'il y a sur vos serveurs est quand même fortement recommandé. Mais malgré tout, la meilleure solution, ça reste le from scratch, réinit, réinstaller, backup, tout ça. Je voulais, avant de vous laisser la parole pour vous faire réagir, moi, je voulais juste finir sur un truc qui m'a quand même pas mal surpris. Bon, des failles de sécurité, il y en a plein et tout. Là, effectivement, c'est assez dommageable de voir que pas mal de gens, des gens expérimentés en plus, ont été impactés et tout. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir le nombre de messages sur Twitter de gars qui pas insultés, mais qui blâmaient les compétences des gens qui ont été impactés. Alors oui, ils auraient dû mettre à jour. Oui, probablement, il faut faire attention à ce qu'on expose, de quelle façon, etc. Mais là, les mecs, ils ont déjà la tête dans le seau. Ça sert à rien de les enfoncer plus, surtout pour pas les aider. Moi, ça m'a un peu surpris la tournure. Vraiment, là, je vous invite à retrouver le tweet du gars qui explique qu'il y a 2000 VM chez lui là qui sont done. Il y a franchement les deux tiers des messages qu'il reçoit, c'est pas des insultes, mais pas loin. Et c'est assez fatigant. Donc voilà. Christophe, Mathieu, Nicolas, j'espère que vous n'avez pas été impacté par cet enfer et que vous avez passé un bon week-end sans ça. Je voulais savoir ce que vous pensez de tout ça et plus généralement ce que vous pensez de la réaction de la communauté vis-à-vis des gens impactés. Nicolas, je te vois sourire, je te laisse la main.
Oui, alors heureusement que j'avais pas de SX en production parce que j'étais au FOSDEM, donc j'aurais absolument pas eu le temps de m'en occuper. Ou alors, j'aurais moins discuté avec les gens sur place. Ça me fait sourire parce que j'ai eu un audit de sécurité récemment. Alors c'était un autre hyperviseur que j'utilisais. Et effectivement, j'avais laissé l'interface d'administration ouverte sur Internet. Alors, il y a du login mot de passe, mais en fait, l'expert en sécurité m'a dit « non, c'est faut le fermer parce que un attaquant pourrait utiliser le vecteur de l'hyperviseur pour détruire les VM ou faire n'importe quoi d'autre. » Donc, c'est plutôt une bonne pratique de fermer tous les ports qui sont ouverts normalement sur Internet. Mettez au minimum des waitlists sur vos IP, mettez des VPN, et ne laisser que ce qui est strictement nécessaire, disponible et ouvert à tout le monde. donc HTTP, HTTPS pour les services que vous mettez à disposition, mais tout ce qui est administration, dans l'idéal, bloquez-les d'Internet. Et après, oui, effectivement, ça me fait sourire. C'est, on est déjà la tête sous l'eau et on vient t'expliquer que t'as mal fait ton boulot. Mais les admin 6, globalement, eux, ils aimeraient bien pouvoir mettre à jour souvent. Mais sur des petites infras comme ça, parce que je pense que c'est majoritairement des petites infras, c'est les clients qui veulent pas rebooter parce que tout est pas forcément redondé, tout est pas forcément mis en place pour pouvoir basculer les VM à chaud d'un ESX à un autre, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours facile de blâmer le pompier qui vient arroser le feu, mais c'est pas toujours lui qui est la source du problème d'origine. Voilà. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as à peu près la même vision ou...
Alors, oui, en partie. Alors, moi, j'ai pas été impacté non plus parce que je suis sur le cloud, sur des offres pure managées. D'ailleurs, je tenais à dire quand même qu'on critique beaucoup de la sécurité du cloud. Beaucoup de gens qui disent souvent « Oui, moi, sur mon petit bar métal, je suis sécurisé, etc. Bon, » on voit qu'en fait, cloud ou pas, on peut être impacté. Hein, ça change rien. Je suis d'accord qu'il ne faut pas mettre les gens on va dire, la tête sous l'eau alors qu'ils l'ont déjà. On avait vu ça aussi quand OVH avait brûlé. Hein, tous les gens qui disaient « Ah, ils n'avaient pas fait de backup, bah, pas de chance. » Néanmoins, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis, Nicolas, sur le fait que beaucoup d'admin 6 n'ont pas forcément les moyens ou forcément l'appui de la direction pour consacrer du budget à des chantiers de sécurité ou d'upgrade ou ce genre de choses. Néanmoins, c'est là aussi où on se pose la question de parfois, bah, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt acheter des services, notamment l'offre VMware d'OVH qui me semble tourne sur des réseaux privés et donc n'a pas été impacté d'après ce que j'ai vu sur leur blog. Donc plutôt acheter le produit plutôt que de maintenir le produit et mettre ses clients maintenir le produit soi-même et mettre ses clients à risque. Mais ça, souvent, c'est parfois pas les sysadmins qui le font, comme tu l'as dit, c'est plus la direction. Et peut-être que la direction retombera sur les sysadmins pour ce problème en disant oh, vous n'avez pas fait votre travail. Mais c'est vrai que quelque part, critiquer des gens sur Twitter ni rien. Mais ça pose aussi une question sur, pour moi, les attentes, on va dire. Parce que, enfin, les clients nous font confiance, c'est ça que je veux dire. Et quand même, il y a quand même un minimum de choses à faire lorsqu'on fait de l'infrastructure avec des données sensibles en plus.
Ben, je vais prendre la parole. Du coup, je vais continuer ce que tu dis et je vais prolonger en donnant mon avis. Je pense aussi qu'il y a le problème du généraliste versus le spécialiste. C'est ce que tu as dit un petit peu, Mathieu, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, et moi je le constate avec des prospects ou des clients, qui pensent qu'elles peuvent tout faire parce que ça leur coûte moins cher de tout faire en interne et finalement qui manquent de temps, parce que manque de moyens, manque de temps, pour justement tout faire bien. Et du coup, on se met à faire de manière globale un peu tout et n'importe quoi. J'ai vu des clients qui ont par exemple... quatre outils de ticketing en interne. Donc ça veut dire que les ops en interne de ce client, alors c'est un gros client, hein, mais ont quatre outils de ticketing et donc ils gèrent quatre outils de ticketing, ils gèrent deux GitLab, ils gèrent leur propre Kubernetes, etc. etc. Et au final, ils se trouvent à faire les choses moins bien puisque dans la plupart des cas, il y a des choses que tu fais pas, mettre à jour tes outils comme un GitLab qui n'est pas mis à jour pendant un an et demi, un Kubernetes qui n'est pas mis à jour pendant des mois, etc. etc., etc. Donc, comme tu le disais, Mathieu, c'est vraiment super important de faire l'état des lieux de ce qu'on utilise et de se dire, OK, alors notre cœur business, c'est quoi? Est-ce que c'est maintenir l'infra ESX ou est-ce que c'est produire du logiciel et le mettre sur une infra ESX? Si c'est la deuxième solution, bah alors je vais aller prendre un service en ligne. Le temps que je grossisse et que j'ai un chiffre d'affaires assez important pour avoir assez de personnes pour gérer correctement mon infrastructure dans l'état de l'art. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Je pense qu'on ne peut pas tout faire bien. À un moment donné, on a des limites. Même si on est une dizaine de personnes, on a quand même des limites. Et il faut savoir... Bah justement, demander de l'aide aux autres. Et ça nous coûte peut-être moins cher de passer par des services en ligne qui, en théorie, ça se voit, je veux dire, c'est plus cher à l'achat, mais ça nous coûte peut-être moins cher en cas de problème, puisque justement les personnes pourront résoudre ça plus facilement. Et du coup, je vais laisser la parole à Erwan.
Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je rajouterais un petit truc sur les réactions. C'est que je pense que les gars qui ont été impactés, ils ont bien compris qu'ils avaient fait des boulettes. Mais ils auront le temps de comprendre le pourquoi après, quand ils auront retrouvé un truc à peu près stable. Et je voulais juste rajouter un fun fact. Moi, je ne connaissais pas le service OpenSLP, donc j'ai tapé dans Google bêtement ça. Et le quatrième lien qu'on me proposait, c'était comment désactiver le service. Et je me suis dit, a priori, si d'autres avaient fait cette recherche, ça aurait peut-être mis aussi la puce à l'oreille. En tout cas... je pense que s'il y a un truc qu'il faut retenir aussi, c'est que si vous acceptez de maintenir un service, posez-vous la question de son exposition, de sa mise à jour, donc suivre les changelogs, etc., de l'éditeur ou de l'équipe qui maintient ça. C'est quand même mandatory pour ne pas se retrouver dans des situations comme ça. J'ai juste pour finir sur le fameux gars des 2000 VM, en fait il expliquait qu'il n'avait pas fait la mise à jour parce que je crois qu'il a un espèce de script qui était plus compatible avec les versions plus récentes. Donc voilà, c'est toujours, ça rejoint vachement ce que vous disiez, le curseur entre est-ce que j'ai le fait de maintenir le truc moi-même, je serais prêt à lui accorder le temps et entre guillemets l'argent pour avoir une qualité et rester dans le maximum dans l'état de l'art. Donc voilà.
Je vais abonder sur ce que tu disais par rapport à comment on désactive OpenSLP. En fait, comme je le disais, c'est fermer les ports, mais c'est aussi arrêter tous les services dont vous n'avez pas besoin. Faites l'inventaire sur vos machines de tous les services. Regardez, en plus, regardez combien ils consomment. Vous verrez, vous grappillerez quelques mégas par-ci par-là. Sur certaines VM, c'est assez intéressant. Et si vous avez moins de services qui tournent, vous réduisez votre surface d'attaque. Et j'ai déjà vu certaines attaques qui avaient été bloquées parce qu'il y avait un petit service à la con qui avait été désactivé sur certaines machines. Et comme ça servait de rebond pour exploiter certaines failles, ça bloquait complètement les attaques et certains ont eu les fesses sauvées grâce à ce petit hack.
Eh ben merci Nicolas, on va pouvoir passer à la suite justement à une news de ta part. Et comme on parlait de VMware, tu vas nous parler justement d'un autre outil qui permet de sortir de VMware pour aller ailleurs.
Oui, effectivement, si vous avez été traumatisé par VMware, alors sur cette fois-ci ou sur les fois d'avant, j'entends beaucoup parler en ce moment d'un outil qui s'appelle Xen Orchestra. Alors en plus, c'est cool parce que c'est développé à Grenoble. Donc Christophe, tu peux aller les voir assez souvent puisqu'ils sont pas très loin de chez toi. Alors j'ai profité de cette news-là, donc ils ont sorti la version 5.79. J'en ai profité pour qu'on puisse en parler et faire découvrir un petit peu à nos auditeurs cet outil. Comme le dit le nom, c'est basé sur Xen. Alors moi, je regardais plus trop ce qui se passait sur Xen puisque j'avais l'impression que c'était totalement déprécié et abandonné, mais visiblement non. Et c'est même un excellent hyperviseur. Je crois qu'AWS tourne entièrement dessus pour sa partie EC2. Et donc Xen Orchestra, alors il y a une partie open source, il y a du support payant, il y a une partie open source et il y a une partie qui est gratuite dans certains usages. Vous pouvez payer pour avoir plus de support, plus de fonctionnalités et ainsi de suite. Et la transition VMware va vous être simplifiée puisqu'ils fournissent des outils de migration. Alors j'ai regardé rapidement cet après-midi, ça vous aide dans certains cas à faire des migrations à chaud de vos VM. Alors je pense que ça doit être assez fun à faire, mais si ça fonctionne, ça vous permet de migrer vos VM à chaud sans couper le service. Et sinon, dans le pire des cas, vous avez la possibilité de faire les migrations à froid. Donc, vous éteignez la VM, il va transférer votre VM d'un hyperviseur à un autre, convertir les formats, remettre le réseau qui va bien, etc. Et ça me paraît vraiment intéressant parce que quand on commence à virtualiser, on a forcément beaucoup de VM et beaucoup. C'est pour la personne qui a ses 2000 hyperviseurs SXI, je pense que lui, il ne va pas les migrer à la main. Les autres trucs intéressants, c'est qu'il y a un déploiement de cluster Kubernetes automatisé. Donc, si vous voulez héberger du Kubernetes vous-même, vous avez la possibilité de le faire. Alors, par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment, c'est pas forcément une bonne idée de mettre votre prod dessus si vous maîtrisez pas. Par contre, pour avoir un environnement de développement intégration dans vos locaux ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant. Et le dernier truc, c'est qu'ils ont sorti une version light de leur interface d'administration. Donc, a priori, ça tourne sur un téléphone portable, dans votre navigateur, et ça vous permet d'avoir une visualisation de l'intégralité de vos VM, les paramètres, etc. Et du coup, bah, c'est un projet assez intéressant. Je crois que je vais m'y intéresser un petit peu plus sérieusement. Puisque en plus il y a un support de Terraform, donc c'est forcément très très cool. Christophe, je te vois hocher de la tête, toi aussi ça commence à t'intéresser?
Ben, je sais que René nous en avait déjà parlé dans un épisode de podcast, alors moi je suis plutôt adepte de Proxmox, qui est une solution plus légère parce que je gère pas autant de VM. Je sais pas si je serais capable à moi tout seul d'installer Xen Orchestra, hein, parce qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir faire attention à ce qu'on veut faire. Mais je vois qu'en effet, l'interface d'admin a beaucoup changé par rapport aux premières fois où je l'avais vue. Ça me fait penser un petit peu à, pour ceux qui connaissent Portainer, pour la partie administration des machines, je vois, et autres. En tout cas, il y a une belle promesse entre le déploiement Kubernetes automatisé, la migration cloud, etc. Je trouve que c'est un super produit.
Alors justement, moi je vais l'étudier un petit peu plus sérieusement pour voir si ça peut pas remplacer Proxmox, avec lequel j'ai 2-3 soucis quand même.
Bah, tu me diras si c'est facile à prendre en main. Et du coup, Mathieu, toi t'en penses quoi de Xen Orchestra? Est-ce que t'en avais déjà entendu parler?
J'en ai déjà entendu parler parce qu'en effet, ils sont de Grenoble. J'ai déjà parlé à Olivier qui a publié l'article de blog sur les réseaux sociaux. On s'était promis une bière qu'on n'a toujours pas faite. Dans les environs, parce qu'il habite vraiment à côté de chez moi. Si tu m'entends, j'espère qu'on pourra faire ça bientôt. Donc en effet, ça a l'air d'être un produit intéressant. Je pensais il y a quelques années, un peu comme Nicolas, que Xen c'était un peu en perte de vitesse, parce que même Amazon avait annoncé sa migration à KVM en 2019, je crois. Alors je ne sais pas si c'est fait, où ça en est, etc. Mais il y avait voilà cette volonté d'Amazon de migrer EC2, peut-être qu'en partie, je ne sais pas, je ne me rappelle plus des détails, vers KVM. Et donc c'est bien aussi d'avoir, je pense que c'est toujours bien dans ce genre de technologie d'avoir du choix, donc de pas en fait avoir des monopoles, même si c'est un produit open source, de pas avoir que KVM ou une autre solution, je sais pas, mais c'est toujours bien d'avoir de la concurrence, donc c'est bien de voir des outils surtout français continuer d'évoluer. La migration à chaud pour migrer de SXI à XCPNG, bah ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'en effet, on ne peut pas se permettre de changer de solution en cassant tout, généralement, notamment sur des infrastructures type cloud. C'est compliqué, surtout pour des clients, de dire bah, on va devoir couper votre VM pendant, je sais pas, 2 heures pour la rallumer ailleurs. Donc, bah, bravo à l'équipe pour ces améliorations. Et moi, c'est vrai que je suis très, très loin du hardware et ce n'est pas du tout ma spécialité aujourd'hui. Je suis dans les couches beaucoup plus hautes. Donc, j'y connais pas grand-chose, même si j'ai quand même quelques notions. Mais. Si je devais faire demain du bare metal, peut-être, très probablement, je comparerais, on va dire, l'existant avec, en effet, enfin, je comparerais KVM avec Xen, c'est sûr, Xen Orchestra. Voilà, donc, Erwan, ton avis sur la question?
Alors, un peu comme vous, moi, Xen, ça remonte à plus de 10 ans en arrière sur les infras que je manageais à l'époque. Donc ça rappelle ces souvenirs-là et je me rendais pas compte que c'était encore plus utilisé que par d'autres gens que Amazon. Donc du coup ce type d'outil ça reste hyper cool. Moi ce qui me fun fact hein, mais le quand il parle des migrations à chaud, il dit que ça marche pour justement même les versions plus vieilles que ESXi 6.3. Donc, avec toutes les embrouilles qu'il y a eu récemment, si vous avez une dent contre ESXi, voilà, il y a de quoi faire la migration à chaud, etc. Quoi. Donc, c'est cool. Merci pour l'info.
Et j'ajouterais juste une petite chose sur Xen. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de Xen ces dernières années sur la partie microkernel ou des choses comme ça, parce que je suis le développement d'un microkernel qui s'appelle Mirage OS. C'est un microkernel qui est écrit en OCaml, qui est originaire de Xen. Et c'est notamment une équipe qui avait été rachetée ensuite par Docker. Je ne sais pas si vous vous rappelez le rachat d'unikernel.org ou quelque chose comme ça par Docker il y a quelques années. Bah, c'était eux. Il y a notamment dans cette équipe... Anil Madhava Pedi, j'espère que je prononce bien son nom, que je l'écorche pas, qui est franchement un ingénieur au top. Probablement, si on me dit demain une personne avec qui je voudrais travailler, ce sera probablement cette personne qui travaille sur ce type de sujet. Et donc Xen a beaucoup travaillé aussi sur ces histoires de microkernel. Et même aujourd'hui, il y a toujours des liens entre ces équipes. Donc il y a toujours en effet du développement sur Xen.
Eh ben merci, on va pouvoir passer à la note suivante. Mais
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Avant, si tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue encore longtemps, puisque ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il est là, le meilleur moyen pour nous soutenir, c'est, si tu le peux, avec un petit don sur soutenir.compagnon-devops.fr. Ça nous aidera à payer l'hébergement des outils, du podcast et tout un tas de choses. Tu trouveras le lien en description. Et pour la news suivante, c'est moi qui m'y colle, je vais te parler de l'incendie d'OVH Cloud, ou plutôt des suites, parce que OVH Cloud vient d'être condamné à indemniser un client. Alors, pour rappel, le 10 mars 2021, il y a eu un incendie qui a détruit une partie des data centers d'OVH Cloud à Strasbourg. Si tu étais dans une grotte ces dernières années, t'en as peut-être pas entendu parler, mais ça a déferlé sur Twitter, LinkedIn, etc., etc. J'en avais même fait un épisode de podcast à part sur les sauvegardes, puisque j'en ai profité. Eh ben, on en sait un peu plus, puisque aujourd'hui, Lamia Elfat, qui est avocat spécialisé dans le numérique, la propriété intellectuelle et la protection des données, nous fait un résumé du jugement, justement, du 26 janvier 2023. C'est tout récent, au moment où on enregistre l'émission. Alors, je vais simplement te lire le post LinkedIn parce qu'il est super bien fait et je vois pas pourquoi j'irais paraphraser son post. Je te mets de toute façon le lien du post en description si tu veux aller réagir. Alors, le client avait un VPS chez OVH et avait souscrit l'offre de backup automatisée. L'ensemble de ces données, y compris celles de la sauvegarde, ont été détruites pendant l'incendie. Alors, sur la clause d'exclusion pour cas de force majeure, elle est écartée. En fait, qualifier tout sinistre de force majeure alors que les services de sauvegarde visent précisément à mettre les données à l'abri en cas de sinistre contredit l'essence même des obligations d'OVH. La clause de force majeure est donc réputée non écrite. Sur la localisation des sauvegardes, la documentation commerciale d'OVH et les conditions particulières d'OVH selon lesquelles elle s'engageait à apporter tout le soin et toute la diligence nécessaire à la fourniture d'un service de qualité, conformément aux usages de la profession et à l'état de l'art, implique de fait que la société OVH avait pris l'engagement de faire des sauvegardes dans un espace de stockage physiquement isolé du serveur principal. En stockant les 3 réplications des sauvegardes au même endroit, elle ne s'est pas conformée aux règles de l'art et a donc manqué à ses obligations contractuelles. Sur la limitation de responsabilité. les clauses limitatives de responsabilité créent une asymétrie entre les obligations du client et celles d'OVH. Elles créent un déséquilibre significatif et sont réputées non écrites. Rappelons l'article 1171 du Code civil, le tribunal souligne bien que le prix du service ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation de ce déséquilibre. Donc pour celles et ceux qui lui ont demandé, il y a en plus la décision directement dans le poste, ça dure 21 pages. Je vous laisserai aller lire, c'est assez intéressant. Alors avant de réagir, je vais vous laisser la parole tous les trois. On parle bien là de quelqu'un qui avait souscrit à l'offre de sauvegarde en plus de l'offre d'hébergement. Qui veut commencer à s'exprimer sur ce sujet ?
Je peux commencer ? Moi je suis pas trop surpris de cette décision dans le sens où en effet, alors nous on est tech, mais tout le monde est dans ce type de signature de contrat n'est pas forcément tech non plus. Et c'est vrai que là pour le coup cette entreprise avait fait l'effort d'acheter quand même le contrat avec trois réplications et en effet avec la mention physiquement isolée. Et physiquement isolée quand le truc est dans le rack à côté, c'est vrai qu'il y avait quand même un peu d'abus peut-être côté d'OVH. Donc là, je ne suis pas surpris, on va dire, de cette décision. Ce que je me demande, c'est est-ce que ça fera un peu jurisprudence et est-ce qu'on va avoir de nombreuses condamnations de ce type sur OVH, sur tous les clients qui vont finalement pouvoir utiliser ce jugement pour et qui avaient souscrit bien sûr à cette offre de backup pour aussi avoir des dédommagements. Est-ce que c'était la première? Est-ce qu'il y en avait une avant? Je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'il y en a eu avant plutôt? Ou est-ce qu'on risque de voir en fait que toutes les semaines OVH va être condamné à 100 000 euros d'amende fois le nombre de clients impactés? Mais on verra bien, mais en tout cas voilà, moi je ne suis pas surpris de cette décision parce que sur toute cette affaire c'est quand même un sacré fiasco, le coup de l'incendie, on en a déjà beaucoup parlé, et notamment comme tu disais en podcast Christophe, que ce soit sur le design du data center ou sur les sauvegardes, il y avait quand même des sacrés manquements côté OVH, et donc là en effet ils font un peu face à leurs responsabilités.
Nicolas, tu as levé la main tout à l'heure.
Oui, j'allais dire à peu près la même chose. C'est autant sur pas mal de choses, on ne pouvait pas trop blâmer OVH parce que c'est de la responsabilité des gens qui sont du métier de mettre les sauvegardes ailleurs. Autant là, c'est indéfendable. Hein. C'est le fait que les backups soient sur le même site géographique, c'est limite une faute professionnelle. Donc, qu'ils soient condamnés, ça me paraît normal. Voilà. Et effectivement, si ça peut servir de leçon à pas mal de gens dans le métier, mais c'est un des sujets qui m'empêche le plus de dormir, c'est les sauvegardes. Je monitor les sauvegardes et ainsi de suite. Par contre, j'ai toujours peur que je puisse pas restaurer. Et quand un client me demande de restaurer un backup, j'ai toujours une petite prière pour que ça marche. Et là, récemment, j'ai un de mes clients, je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est que tous les mois, tu vas me demander de restaurer un fichier au hasard et au moins, ça va valider que ça sauvegarde. Enfin, surtout qu'on peut restaurer parce que ça aussi, c'est un truc qui est super important. C'est pas parce que ça sauvegarde que la restauration fonctionne. Donc, il faut tester vos process régulièrement et partager la responsabilité avec votre client. Parce que au final, c'est aussi une responsabilité du client de vérifier que la sauvegarde fonctionne bien. J'ai travaillé avec des chercheurs en sécurité des thésards et qui me disaient toujours la confiance n'exclut pas le contrôle. Et effectivement, c'est ça. C'est contrôler toujours vos prestataires, vérifier qu'ils font bien leur travail. Et ça marche aussi avec vos collègues. Hein. Erwan, je te vois sourire. Qu'est-ce que tu as à rajouter ?
Effectivement, c'est faire des backups, c'est bien, s'assurer que ça fonctionne, c'est encore mieux. Et effectivement, ça fait écho, hein. Je ne sais plus quel podcast, mais je me souviens qu'on avait parlé un peu de ça, comme avec le plan de reprise d'activité ou des choses comme ça, on avait évoqué ce type de choses. Et effectivement, j'ai rien à ajouter de plus que ce que vous avez cité. C'est quand même très surprenant que... de faire l'effort de faire les trois sauvegardes, mais les mettre à côté, c'est dommage. Et effectivement, le vrai truc à suivre, c'est à quel point ça va faire un appel d'air pour d'autres plaintes de ce type, et ça peut du coup coûter vraiment très 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 cher à OVH.
Oui, je vais prendre la parole du coup. En effet, c'est, je ne vais pas être redondant par rapport à ce que vous avez dit. Et même, j'ai envie de dire, même si on prend la sauvegarde chez notre fournisseur cloud, je pense qu'il faut prendre l'habitude de faire nous-mêmes nos propres sauvegardes, parce que c'est bien beau de gagner un procès face à OVH, mais les données, elles sont parties en fumée, elles. Le backup aussi, donc c'est hyper important de nous, en tant que clients, de s'assurer d'avoir nos propres sauvegardes. Et j'espère que ça servira de leçon à OVH et qu'ils feront justement qu'ils feront évoluer leur infrastructure, parce que comme on dit dans le mouvement DevOps, avec les erreurs, on évolue, et donc j'espère qu'il y aura une belle évolution là-dessus. Oui, Nicolas.
Oui, bah en fait, tout à l'heure, on parlait de la faille qu'il y avait eu sur VMware. Imaginez que toute votre infrastructure est sur du VMware, backup compris, tout est ransomwareisé, vous avez tout perdu. Donc, arrangez-vous pour que ça soit sur des technologies différentes aussi, sur des comptes séparés. Si vous avez tout dans un gestionnaire de mots de passe, et réfléchissez à ce qui va se passer si jamais votre gestionnaire de mots de passe est piraté et que le pirate s'amuse à supprimer tous vos backups et tous vos serveurs chez tous vos fournisseurs. J'avais lu un article de blog, la boîte s'était fait pirater son compte AWS et le pirate a utilisé l'API, il a détruit toutes les ressources. Mais il a commencé par les backups, sinon c'est pas marrant. Et la boîte avait plus aucune donnée, plus aucune sauvegarde, ils ont mis la clé sous la porte. Donc, est-ce que vous avez envie de changer de boulot dans ces conditions-là? Je suis pas sûr.
Oui, alors on ne le rappelle pas assez, mais une boîte qui perd ses données a de très très fortes chances de mettre la clé sous la porte en moins de 2 ans. Je ne sais plus quelle est exactement la statistique, on l'avait étudiée pour un de nos SaaS justement. Et c'est quand on perd les données, on a grosso modo une chance sur deux de mettre la clé sous la porte rapidement. C'est super important, les sauvegardes.
J'avais vu un article, comme tu dis, Nicolas, je crois qu'il y a une paire d'années, c'était un cloud provider qui avait eu le problème. Un petit cloud provider, mais quand même, enfin petit, entre guillemets. Et pareil, il avait fermé parce qu'il s'était fait détruire 100% de son infra. Mais vraiment, quoi, il n'y avait plus rien. Plus aucune donnée. C'est vrai que c'est fou.
Ah bon. Ouais, puis en plus, dans ces cas-là, il a perdu les données de ses clients. Du mais coup, voilà. En réaction en chaîne, il y a combien de boîtes qui sont qui ont fermé?
Ouais. Et réfléchissez à vos tokens AWS sur lesquels vous avez mis les droits administrateurs sur l'intégralité de vos ressources. Et oups, ça a été publié sur GitHub et je m'en rends compte une semaine après. Je pense que vous allez vous en rendre compte rapidement parce que vous aurez plus d'infra, mais bon.
Ah, il n'y a plus de token, tout le monde fait du Kubernetes avec les annotations des rôles Amazon, non? Avec l'identity provider.
Oui, bien sûr.
Bon. Justement, avant qu'on passe à la suite, du coup, vu que vous parlez de secrets et autres, je rappelle à notre cher auditeur ou auditrice qui nous écoute que nous avons fait un épisode de podcast sur les secrets et la gestion des secrets dans l'infrastructure as code. Donc, je te renvoie à cet épisode-là, le lien sera en description et situé sur YouTube. Il y a la petite fiche i qui est ici, là, qui va s'afficher avec le lien direct de la vidéo. Et Mathieu, tu vas nous parler de l'avenir d'OVH, puisque maintenant qu'on a parlé d'OVH et des problèmes d'OVH, qu'est-ce que OVH nous réserve pour l'avenir? Un petit peu de positivité dans ce podcast.
C'est ce que j'allais dire. On va faire un peu des news positives sur OVH. Donc, il y avait la conférence Veritech Trip qui était organisée par OVH, c'était il y a 2 semaines, je crois, 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'y assister, mais une chose intéressante, c'est qu'OVH en a profité pour faire de nombreuses annonces concernant sa roadmap, annonces qui ont été reportées sur leur blog, hein, dans un article de blog. On a discuté déjà plusieurs fois sur ce podcast dans le passé, dans d'autres épisodes, du cloud français, notamment parfois des manques de produits qu'on pouvait avoir sur les offres françaises, et ce qui fait que forcément certaines entreprises n'utilisent pas des clouds locaux parce qu'il manque des fonctionnalités. Et donc je pense qu'on peut vraiment être content lorsqu'un cloud provider français annonce de nouveaux produits. Et là, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé dans cet article. Alors tout d'abord, il y a les produits eux-mêmes. On commence avec IAM et KMS. Donc OVH nous promet un nouveau système, la sortie prochaine d'IAM pour gérer toutes les identités et les permissions de manière globale sur ces services, sur l'API et ensuite sur le manager, en commençant par la partie public cloud, qui est probablement la partie qui nous intéresse le plus ici, dans ce podcast. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Et pour KMS, donc là, il y a assez peu de détails dans l'article. KMS, ils disent que ça sera là pour gérer les secrets. Alors, est-ce qu'on parle de secrets applicatifs, comme par exemple, pour les personnes qui connaissent le Secret Manager d'Amazon, où on peut stocker des fichiers ou des chaînes de caractères chiffrées, ou est-ce qu'on parle aussi de KMS ici pour des clés de chiffrement, pour chiffrer par exemple des disques, des volumes ou des bases de données? Donc on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait ces annonces. Et surtout sur ces deux annonces, la chose intéressante, c'est qu'OVH annonce que ces deux produits seront open source. Le code sera libéré. Alors je ne sais pas sous quelle forme, je me demande d'ailleurs si ça sera utilisable facilement en dehors d'OVH, s'il y aura un couplage fort avec l'infrastructure interne d'OVH ou non, ou si ça sera des produits un peu à la HashiCorp, par exemple, comme Vault, qui pourraient être aussi facilement utilisés et déployés sur des infrastructures hors OVH ou quel que soit le type d'infrastructure. Mais c'est vraiment intéressant de prendre cette approche open source sur ces deux produits. Et je me demande où ça ira. Je me pose aussi la question de pourquoi, si c'est open sourcé, pourquoi c'est pas reversé à la fondation OpenStack, par exemple, parce que OVH est contributeur d'OpenStack, enfin, et utilisateur d'OpenStack énormément sur son offre public cloud, mais s'ils ont un espèce de Franken OpenStack, on va dire, c'est pas vraiment de l'OpenStack, est-ce que c'est de l'OpenStack mélangé avec leur stack, avec leurs produits privés, comme par exemple le Verac. Et donc, je me demande aussi si, comment ça se passera avec, sur la libération de ce code et sur son utilisation. Il y a aussi des nouveautés concernant d'autres produits, hein, comme une offre bare metal as a service, sur un Kubernetes multi-cloud, qui serait aussi lui aussi open source. Alors, à voir, comment ça sera libéré, est-ce que ça sera une offre un peu type Rancher, je ne sais pas, hein, je dis au hasard, qui pourra s'installer sur ailleurs, donc à voir. Et d'autres services plus haut niveau, comme des services d'IA, ou des services de face. Donc, en conclusion, moi, ce que j'attends, c'est voir si les promesses vont être tenues, si en 2023, on aura ces produits qui vont sortir. IAM, par exemple, je me rappelle que Octave Klaba, le fondateur d'OVH, en parlait déjà il y a plusieurs années, hein, je me rappelle de slides comme ça, des OVH Summit, où c'était annoncé, mais finalement, ce n'était pas sorti. Donc j'espère que là, ça sera la bonne année pour que ça sorte. Et à voir si ces produits, bien sûr, seront de qualité, avec l'outillage attendu au niveau, par exemple, Terraform ou autre. Le risque pour moi, ça peut être côté OVH, ça peut être également de se disperser. OVH annonce par exemple une offre Kubernetes multi-cloud, peut-être pour concurrencer Scaleway qui a déjà une offre sur ce créneau. Mais pour moi, ces deux acteurs font un peu une erreur sur ce niveau-là, dans le sens où ils annoncent des offres Kubernetes par exemple multi-cloud avant d'avoir l'offre monocloud chez eux, vraiment utilisable en production. Hein, pour connaître des gens qui l'utilisent vraiment, c'est compliqué. Donc des fois je me demande s'il n'y a pas aussi le fait de vouloir aller trop vite pour avoir des effets d'annonce au lieu de déjà corriger les problèmes existants qui sont nombreux que ce soit sur les produits ou sur l'outillage. Mais bon, on peut se réjouir quand même de ces annonces et qui vivra verra et on verra en 2023 ce qu'il en est. On pourra faire un bilan peut-être dans un an de qu'est-ce qui est sorti et on verra si la roadmap a été déroulée comme prévu ou non. Voilà, donc je vous laisse réagir sur ça. Je ne sais pas qui veut commencer.
Alors je peux compléter un petit peu parce que j'avais vu une présentation du CTO d'OVH dont je ne retrouve pas le nom, donc je m'excuse pour lui, où en fait le but d'OVH en open sourçant, je suis en train de retrouver son nom, c'est pas grave. En fait, il avait fait une présentation sur la stratégie d'OVH et de l'open source, où en fait le but c'est d'arrêter de se faire bouffer par les GAFAM, donc principalement AWS qui leur pique une bonne partie des clients. Et en fait, pourquoi? C'est que il manque plein de fonctionnalités comme notamment IAM, KMS et ainsi de suite. Et en fait, ils ont réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait concurrencer ces acteurs-là, et ils se sont dit, nous tout seuls, on va pas pouvoir. Et donc, ils se sont dit, la solution, c'est de développer des solutions open source, ou de racheter des solutions open source, ou d'y contribuer. Et là, sur la partie IAM, il expliquait bien pourquoi ils sont partis à le refaire eux-mêmes. C'est qu'en fait, ils ont benché plein de solutions d'IAM, dont la solution d'OpenStack qui est... ça y est, j'ai perdu le nom. Bref, la solution d'OpenStack gère la partie identité, en fait, Keystone, elle scale pas du tout. Voilà, Keystone, merci. Donc, c'est basé sur un cluster MariaDB, etc. Donc, ça marche bien, mais c'est quand même assez lié au système des régions. Et avec les millions d'utilisateurs d'OVH, ça scale pas. Parce que le but, c'est quand même que tout utilisateur, tout client d'OVH ait un compte qui lui permette de l'authentifier et après de lui rajouter des droits. C'est toi, tu as le droit de voir tel service, tu as le droit de faire telle action dessus, et tel autre service, un autre a le droit de faire ça et ça, et ainsi de suite. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui tienne la charge, il faut quelque chose de robuste en termes de sécurité, stabilité, fiabilité, etc. Et donc, ils n'ont pas trouvé d'acteurs open source qui le faisaient, ils ont trouvé une petite boîte qui le faisait, ils l'ont racheté. Et ils se sont tout de suite dit on va le sortir en open source. Et mais en fait ça va beaucoup plus loin que ça. C'est non seulement ils vont le mettre en open source, mais ils vont documenter la manière de l'installer. Donc finalement c'est toi Mathieu, tu veux l'installer dans ton entreprise, tu vas pouvoir. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ils veulent que tous les clouds européens puissent utiliser la même stack. Donc, tu veux monter un concurrent OVH, bah pas de souci, tu prends le playbook, il t'explique comment installer la partie IAM, la partie KMS, la partie OpenStack, et ainsi de suite. Alors bon, ils ont pas trop peur de la concurrence, puisque bon bah c'est les gros acteurs comme Scaleway, ils sont déjà en place, avec exactement les mêmes logiciels, ils vont pas forcément les concurrencer directement, parce qu'OVH a quand même pas mal d'avance sur certains domaines. Et en fait, pourquoi ils font ça? C'est aussi pour apporter la possibilité aux clients de passer d'un cloud provider à un autre. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut reprocher aux acteurs américains. C'est une fois que tu es chez AWS, que tu as utilisé tous leurs services, pour en sortir, bon courage, il faut réécrire quand même pas mal de choses pour aller chez Google, chez Azure ou chez qui tu veux. Il faut réécrire pas mal de choses. Là, ils veulent vraiment se démarquer en disant bah, si vous venez sur un hébergeur européen comme OVH, vous pourrez très bien aller chez un autre opérateur, un Allemand, un Suisse ou je ne sais pas quoi, qui aura utilisé la même stack. Et ça va même encore un tout petit peu plus loin que ça. C'est il y a certains gros clients qui veulent pouvoir avoir du cloud public, mais ils veulent aussi avoir du cloud privé. Donc ça, ils ont déjà commencé que tu aies la possibilité d'avoir une partie du cloud chez toi. C'est les mêmes API que l'API d'OVH. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ils ont commencé avec juste des workers que tu installes chez toi. Et finalement, tu peux déployer une partie des services qui normalement sont déployés dans du public cloud, dans du private cloud, et ainsi de suite. Mais du coup, là, c'est dans tes locaux, sur tes machines que tu gères toi. Et OVH n'a quasiment pas la main dessus, sauf à travers son API. Voilà. Et pour compléter, je trouve que c'est des super nouvelles, là, ce qu'ils nous annoncent. Et je suis impatient de pouvoir tester tous ces trucs-là. Et notamment sur la partie IAM, parce qu'effectivement, c'était un truc qui manquait pas mal. Je n'ai jamais ressenti le besoin, mais comme toutes mes entreprises grossissent, ça va être cool que je puisse utiliser ça. Erwan, je t'ai vu un petit peu hocher la tête. T'en penses quoi?
Oui, non, mais bah, alors, t'as les compléments d'infos que tu as ajoutés, ça me permet. Je trouvais que déjà les annonces étaient relativement ambitieuses et c'est cool, mais en fait, ça l'est nettement plus que ce que j'avais compris et que ce que j'avais lu. Donc c'est vraiment vraiment bien. Et après les premiers services que Mathieu a cités, bah c'est effectivement les must-have des cloud providers. Aujourd'hui, tu peux pas avoir un cloud provider sans IAM. Enfin c'est pour ça que Scaleway a mis pas mal d'énergie là-dessus et a pas mal communiqué sur le fait que c'était sorti. KMS pareil. Donc non c'est c'est cool. Et le je trouve que c'est un peu utopiste là, la vision de dire tout le monde utilise la même stack, comme ça ton Terraform, tu changeras le endpoint de ton nouveau provider et ça va marcher pareil. Bon. J'attends pour voir, mais c'est quand même cool que ce soit l'ambition, et à voir. Gageons que. On se reparle plus tard pour voir ce qui sortira. Christophe ?
Ouais, bah écoute, c'est cool parce que du coup, je trouve que nos chers cloud providers français, là, les deux, Scaleway et OVH, ça bouge beaucoup chez eux. Je trouve que c'est des bons clouds intermédiaires, sans aller vers les gros. C'est une bonne marche en fait pour faire, pour avoir certaines choses assez sécurisées sans forcément avoir toute la pléthore de services des grands hyperscalers. Pour certains services, ça peut suffire. Le IAM, c'est vrai que ça manquait. Après, je trouve que la stratégie open source est vraiment super bien et super ambitieuse. Moi, je suis persuadé, en fait, que pour avoir une souveraineté des États sur le numérique, il faut aller vers l'open source. Néanmoins, je sais que les cloud providers, la plupart, sont pas forcément prêts à prendre des briques communes à tout le monde parce que ils ont des innovations hard, ils ont des innovations soft, etc., qui font que bah, ils vont avoir du mal à utiliser des briques open source. On constate parce que OpenStack, c'est quand même un gros, très gros projet open source qui marche bien selon moi. Et il n'y a pas 36 cloud providers qui le fournissent en France. J'en connais 3, dont un qui n'expose pas l'API. Ça, c'est un autre sujet. Et en Europe, je crois qu'il y en a un autre. Après, il y en a plein que je connais pas. Il y en a plein qui le proposent en info géré. Mais je pense que l'open source n'est pas encore vraiment rentré chez les cloud providers. Et ça me fait penser en fait que j'aime beaucoup Scaleway. Et c'est un des griefs que moi je fais contre Scaleway, c'est que la plupart des choses qu'ils développent ne sont pas libres. Ce qui fait qu'on est aussi marié avec eux quand on va chez eux. Parce que malheureusement, tout ce qu'on développe pour eux, bah, ça reste interne chez eux. Ouais, Mathieu.
Ouais, je voulais réagir sur ça parce que tu as raison. Hein, aujourd'hui, la majorité des clouds, même peut-être la totalité, on y reviendra. Enfin, j'y reviendrai. Utilisent des sacs propriétaires. Et en effet, aujourd'hui, on est autant lock-in chez Amazon que chez Scaleway. Hein. C'est la même chose que chez Clever Cloud, etc. C'est du pur propriétaire partout. Néanmoins, on peut toujours utiliser du RDS ou chez Scaleway l'équivalent, ou chez Exoscale, par exemple pour PostgreSQL. Donc utiliser un PostgreSQL qui, lui, c'est standard. Utiliser du Kubernetes qui, lui, est standard. Du S3 qui, lui, est standard. C'est-à-dire que même si la partie Terraform, provisioning de l'infrastructure, etc. n'est pas standard, si on fait de l'Ubuntu avec du Cube, du S3, du Postgre, du MySQL et du Kafka, par exemple, bon, la partie applicative, elle, est quand même libre, open source. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Mais je trouve, en effet, comme disait Erwan, que c'est un peu utopique que de vouloir que les autres cloud providers installent la stack d'OVH. Déjà, parce que ça fait un peu... Enfin, il y a toujours cette idée, il y avait aussi cette idée avec Gaia-X à l'époque, qui a totalement coulé, d'avoir des stacks communes. Et au final, dans le cas d'OVH, moi, je le ressens un peu comme s'il disait, bah voilà, on va tous avoir la même stack, mais ça sera la nôtre. C'est très, 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 très facile comme discours. Parce que, au final, c'est eux qui font le développement, c'est eux qui auraient l'avantage et le contrôle du projet, qu'un petit acteur n'aurait pas. Comme tu l'as dit, Christophe, il y a aussi beaucoup d'innovations dans le cloud qui font que c'est très compliqué de participer à des projets communs. Si demain, moi, je fais, par exemple, j'ajoute un nouveau endpoint sur OpenStack pour mon besoin de mon cloud interne, je peux être sûr que je vais avoir 10 personnes qui vont dire « Ah non, mais moi, j'en ai pas besoin. Moi, je voudrais plutôt que ça soit fait comme ci, comme ça, etc., etc., etc. » Et peut-être que je vais mettre 6 mois à ajouter mon endpoint pour faire je sais pas quoi, alors qu'en fait, moi, j'ai envie de release tout de suite pour avoir des clients tout de suite. Donc, ces projets un peu à comité, c'est aussi difficile à faire évoluer. Donc, à voir, mais c'est vrai que moi, le fait que le cloud soit propriétaire, ça me dérange pas tant que ça, tant qu'en fait les produits au-dessus, donc les produits plus au niveau de base de données, de message bus, de gestion de log ou de métriques, etc., le sont eux, parce que c'est ça finalement qui me permettra de migrer. Le Scaleway a par exemple sorti Cockpit récemment pour le monitoring que j'utilise pour mes projets. Cockpit, c'est du Grafana. Grafana, l'interface Grafana, mais aussi du Grafana Cortex. c'est du Loki. Et je sais plus s'il propose Tempo. Il y a sur Loki, Cortex et Grafana Dashboard, on va dire, qui est du pur open source. Donc finalement, je sais que demain, bah, je peux migrer assez facilement sur notre infrastructure. Moi, je préfère ce genre d'approche plutôt que de vouloir, on va dire, mettre en commun la base du cloud, qui est là où moi, j'y crois plus. Il aurait fallu faire ça il y a 15 ans. Enfin, OpenStack avait essayé, mais ça n'a pas pris. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on arrivera à repartir là-dessus.
Oui, attends Nicolas, je te passe la parole juste après. Je vais rebondir sur ce que dit Mathieu. Moi, je suis persuadé en effet de ça, puisque c'est la voie qu'on a choisie, nous, pour Frogit. On se base sur des briques open source. Pour l'instant, GitLab, Mattermost, à l'avenir, il y en aura d'autres. Et c'est notre manière de manager, notre manière de faire les choses qui, elle, est propriétaire, qu'on ne libère pas, en effet. Et on va développer, je pense, des petites innovations à l'avenir quand on aura plein de clients et qu'on aura les moyens. Et en effet, si on se base, comme tu le dis, sur des briques qui sont libres, et s'il y a juste le code Terraform à refaire, ça reste encore dans un projet une petite part. Parce que l'application, elle va pouvoir se connecter à du PostgreSQL managé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, je pense. Nicolas, je te laisse la parole.
Oui, alors du coup, je voulais compléter. Donc, j'ai retrouvé le nom du CTO, donc c'est Thierry Souche. Et justement, la question lui avait été posée. Bah oui, vous êtes bien gentil de mettre votre brique open source, mais si vous voulez que ça soit vraiment adopté, c'est comment est-ce que vous allez gérer les contributions, etc. Donc, déjà, ils mettent en open source et son but, c'est que ça soit mis dans un consortium type OpenStack avec une gouvernance qui n'est pas que celle d'OVH, où il y a des contributeurs qui peuvent être extérieurs à OVH. Donc au fur et à mesure où il y aura des acteurs qui commenceront à l'utiliser, au fur et à mesure, chacun aura de plus en plus de poids. Mais un petit peu comme la gouvernance d'OpenStack est, hein, c'est, il y a des gens de la NASA, il y a des gens de Rackspace à l'origine, et il y a des gens comme OVH qui sont plus ou moins lead sur certains projets, et après, pour avoir discuté avec eux, leur but, c'est d'avoir de moins en moins des forks, et aujourd'hui, je crois qu'ils sont très très proches de toutes les versions maintenues par OpenStack, et ils essayent de contribuer pour que tout ce qui est spécifique chez eux puisse être généralisé ailleurs. Parce qu'au final, si eux, ils ont le besoin, le jeu de l'open source, c'est aussi de faire remonter ça upstream, pardon. Et finalement, c'est aussi le meilleur moyen que le développement coûte moins cher, parce que maintenir un fork dans son coin, c'est extrêmement coûteux, et finalement, c'est assez... c'est pas là où la valeur de l'entreprise est le plus, c'est plutôt l'intégration de tout ça et faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Et même sur cette partie-là, OVH, je trouve qu'ils sont très transparents, ils expliquent comment ils font, que de toute façon, ils sont tellement, enfin, les équipes sont tellement dimensionnées et leur expertise est tellement ancienne que vouloir concurrencer OVH directement en frontal sur ce qu'ils font sur la partie OpenStack, ça serait pas très raisonnable, parce que ils ont un certain volume et on pourra jamais les concurrencer sur cette partie-là. Par contre, un concurrent allemand qui a déjà ses clients sur la même solution, alors j'ai pas le nom des opérateurs allemands en cloud, mais il y en a quelques-uns, ils pourraient très bien être complémentaires à OVH. Et quand on veut faire du multi-cloud, aujourd'hui, si on veut faire du multi-cloud, en France, on a la solution entre OVH et Scaleway. Mais comme on le disait, c'est des solutions qui sont quand même diamétralement opposées en termes d'API, etc. Si on a un autre opérateur européen qui propose une API un peu plus similaire, ça sera plus facile de faire du multi-cloud. En tout cas, c'est aussi bien qu'il y ait de la diversité, et surtout en France d'ailleurs, ça c'est cool. On a quand même deux acteurs majeurs du cloud qui sont français, et c'est une bonne nouvelle. Après, je dis pas que Scaleway, c'est pas bien ce qu'ils font, c'est au contraire, ils sont hyper innovants et ils sont très attentifs à ce que veulent leurs clients, et ils développent les choses au fur et à mesure. On en a parlé dans un précédent épisode, la partie IAM, c'est bien. Je ne sais plus dans quel podcast j'ai entendu ça. Ils sont hyper à l'écoute de ce que font les clients. Ils regardent la stabilité du truc, et ainsi de suite. Donc, on prend la bonne voie pour moins se faire bouffer par les Américains, je dirais.
Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va passer à la suite. Alors, avant de passer aux outils, je vais te rappeler que ce podcast, il est en licence libre. Il est en Creative Commons CC by SA. Tu peux prendre des petits bouts, voire le publier intégralement. Enfin, tu peux faire ce que tu veux avec. Par contre, il faut nous citer et citer la source. De toute façon, le lien est dans, enfin, le lien des crédits est en description. Alors, on va parler d'outils. Cette fois-ci, il n'y a que moi qui propose des outils, à moins que vous vouliez en proposer au pied levé. Mais je vais vous parler de deux petits outils. Alors, le premier, c'est Docker Shell. Docker Shell, c'est un shell interactif pour Docker que j'ai découvert cet après-midi en préparant l'émission. Je ne l'ai pas encore testé, mais d'après les captures d'écran que j'ai vues, en gros, on lance le Docker Shell et après, on a un nouveau shell qui se lance et qui est complètement interactif. Il nous propose la liste des actions à faire sur les conteneurs, la liste des conteneurs qui sont à disposition à lancer, à inspecter, etc., etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un petit outil sympathique quand on manipule des conteneurs. Je ne sais pas si vous le connaissiez, cet outil.
Non, pas du tout.
Non, vous ne le connaissiez pas. Et ben, grâce à moi, vous allez pouvoir le tester. Un nouvel outil à tester. Et autre outil qui est en ce moment dans mes marottes, puisque quand on gère des projets open source, on doit faire des changelogs. Et du coup, je vais vous parler de C-Log. Et plus particulièrement de C-Log Cli, en fait, c'est son petit nom, mais on va dire que c'est C-Log. C-Log, il va vous permettre de créer des changelogs qui suivent le format conventionnel, donc les conventionnels changelogs, mais de manière automatique en s'appuyant sur les métadonnées de Git. Si vous suivez les commits conventionnels, ça va vous faciliter la vie. Et moi, je suis très pressé de pouvoir l'utiliser parce que aujourd'hui, on fait nos changelogs à la main et c'est une des choses que je veux automatiser, la création des changelogs en automatique. Je ne sais pas si vous faites ça, des changelogs et des changelogs de manière automatique.
Ah bah, le conventional commit, ça a quand même une vertu, c'est de pouvoir utiliser des outils pour générer les changelogs pour nous. Donc t'as cité, moi je ne connaissais pas celui-là, mais il y a pas mal d'outils qui... À partir du moment où tu respectes les conventional commits, bah, il te génère des changelogs plutôt propres et tout. Et puis, tu en as qui intègrent directement avec GitHub, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Mais je vais me permettre un petit troll. Ça me rappelle que récemment, il y a eu un gros débat sur le Git Emoji, là, sur les messages de commit avec des emojis dedans. Bon, bah voilà, il y a another tool à développer pour générer le changelog automatiquement.
Oui, ben bah, nous, typiquement, on a abandonné les emojis dans les messages de commit parce que justement, ça posait des problèmes pour ce genre de choses. C'est plus sympa à lire quand on lit l'historique, mais ça apporte un petit souci justement pour ce genre d'outils.
Et aussi pour les malvoyants.
Nicolas, tu viens de rajouter un outil, alors je te laisse la parole.
Eh ben ouais, parce que régulièrement, j'en parlais tout à l'heure, Arnaud, on en parlait en off du fait d'être DBA ou pas. Donc moi, je manipule pas mal de bases de données, que ça soit pour moi ou pour mes clients. Et c'est des fois visualiser tout ça en ligne de commande, c'est sympa, ça permet d'aller vite, mais ça pique un peu les yeux. Et des fois, un petit outil pour aller visualiser sa base de données, c'est toujours sympa. Par contre, bah, j'en ai un pour MySQL, MariaDB, mais pour PostgreSQL, je trouvais jamais celui qu'il fallait. Et j'en avais marre de passer un petit peu de l'un à l'autre. Et pour trouver un outil pour un de mes clients, je suis tombé sur DBeaver. C'est un petit castor, la mascotte, c'est open source. Alors il y a une version payante, là j'ai pas trop regardé ce qu'elle faisait, mais dans la version gratuite on peut déjà se connecter à plein de bases de données, MySQL, PostgreSQL, SQLite, vous pouvez même faire du propriétaire avec de l'Oracle, du Sybase et ainsi de suite. Et je trouve que c'est toujours pratique d'avoir un petit outil comme ça d'installer sur sa machine, un petit tunnel SSH et hop, vous pouvez visualiser votre base de données, le schéma, etc. Et ça vous permet de gagner du temps quand vous allez avoir besoin de farfouiller un petit peu dans un schéma que vous ne connaissez pas et quand vous n'avez pas envie de d'éplucher 50 pages de doc parce que vous êtes en astreinte, il est 3 heures du matin et vous voulez retourner vous coucher.
Écoute, merci Nicolas, tu viens de me projeter 15 ans en arrière à l'époque où j'utilisais ce genre d'outils quand j'exploitais des solutions et que j'étais gestionnaire d'applications. L'ancien nom de ingénieur DevOps, je troll un peu, mais j'utilisais ce genre d'outils, c'est hyper pratique, et je me demande même si je n'ai pas déjà utilisé une ancienne version de DB Weaver. En tout cas, l'interface me dit quelque chose, et c'est vraiment en effet hyper pratique, hyper puissant, parce que, comme tu le dis, une connexion SSH, et pouf, on peut aller manipuler, interroger une base de données, sans avoir un truc du genre PHP MyAdmin ou Adminer à maintenir qui est installé sur les serveurs. Et ça, c'est une bonne chose. Et Mathieu, Erwan, vous en pensez quelque chose de ça?
Bah, si, c'est toujours bien. C'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir explorer facilement un schéma de base de données ou des choses comme ça. Pourquoi pas? On va dire que j'ai peu l'occasion, on va dire, au travail d'aller sur des bases de données. Au final, aujourd'hui, SQL, ça m'arrive, mais c'est quand même assez rare. Je fais moins de code qu'avant, on va dire. Mais oui, ça peut toujours aider à débugger. Mais encore, comme d'habitude, attention à comment vous accédez à vos bases de données, et comment vous les exposez et comment vous identifiez pour éviter la même chose que ce qui se passe sur VMware.
Exactement. Moi, j'ai tendance à penser que ce genre de choses, on devrait l'écarter de la prod pour le garder sur des environnements hors prod pour quand on développe ce genre de choses. Après, il y a potentiellement des moments où tu as besoin en tant que d'exploitant d'aller regarder ce qui se passe dans la base de données ou en tant que développeur. Ou alors, tu demandes un dump de ta base de données à ton DBA préféré et il te l'envoie et il l'anonymise et puis toi, tu vas regarder. Parce que tout le monde fait ça, évidemment. Tout le monde anonymise les bases de données avant de les envoyer aux développeurs. Hein, vous faites tout ça.
Bien sûr.
Ah, j'espère.
Ou alors, il y a la...
Non, je voulais dire, déjà, une base de données qui sort de la prod, du compte de prod, c'est déjà, en théorie, pas possible. Enfin, moi, c'est un peu ce qu'on essaye de se dire, déjà. Ça devrait même pas sortir ailleurs. Ça devrait pas finir sur un poste de dev ou sur, même en staging, remonter un backup de la prod en staging, ça devrait être interdit. Non anonymisé, surtout. Si c'est anonymisé, pourquoi pas, mais bon, oui. À voir comment c'est fait.
Oui, c'est ce genre de choses à non anonymiser, oui, ça, on prend des risques. Eh bien, écoutez, on va aller vers la clôture, alors. Donc, je rappelle...
Je voulais rajouter un petit truc, c'est vos bases de données, normalement, elles devraient limite même pas avoir accès à Internet. Elles sont dans une DMZ bien cachée et pour que vos développeurs puissent y avoir accès, si vous êtes une petite boîte, vous mettez en place des tunnels SSH avec une machine de rebond sur laquelle vos développeurs ne peuvent pas faire grand-chose, y compris se reconnecter sur d'autres morceaux de l'infra. Regardez la doc de SSH, on peut faire des trucs très très bien avec le point SSH Authorized Key. Et si ça vous suffit pas, bah vous avez des outils HashiCorp comme Boundary qui vous permettent de faire exactement la même chose, mais de manière beaucoup plus compliquée. Je suis en train de m'arracher les cheveux avec. Tiens.
Merci Nicolas. Du coup, très chers auditeurs et auditrices, si tu nous écoutes et que tu as appris les choses et que tu as envie de partager, bah, tu peux venir en discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. C'est une communauté, on est déjà plus de 1500 à discuter au quotidien sur un forum. Tu peux t'inscrire, le lien est en description et tu pourras participer aux discussions. Tu verras, on apprend plein de choses et peut-être même tu pourras participer au podcast. Merci. Encore une fois à tous les trois de votre participation. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin et on va commencer par Erwan.
Ça sera carte.
C'est une belle carte, je ne sais pas quel jeu c'est, ça m'intrigue.
Tu la remontes.
Mathieu, quel est ton mot de la fin ?
Mon mot de la fin, c'est dur à dire. Mon mot de la fin, ça serait peut-être rebondir sur la partie sur le cloud. Où, comment dire ça ? J'espère que les clouds français arriveront vraiment à décoller, enfin même européens arriveront à décoller. Mais pour ça, faut vraiment, 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 pour moi, il n'y a qu'un seul truc essentiel. Sans parler, le libre, c'est important, l'ouverture, le multi-cloud, c'est important. Mais la base, c'est d'avoir un produit qui marche. C'est ça vraiment le truc clé pour moi. C'est vraiment sur ça que je les attends aujourd'hui, pas sur le reste.
Merci. Nicolas, tu as le mot de la fin de la fin. Profites-en.
Eh ben, c'est rejoignez-nous sur le forum. Venez discuter avec nous de comment est-ce qu'on fait nos mises à jour, nos backups, etc. Et essayez de les faire le plus rapidement possible pour éviter d'être au chômage suite à un petit ransomware.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.